mais prévient du même souffle qu'il faudra préciser les intentions du fédéral. Justin Trudeau promettait mercredi d'enchâsser dans une toute nouvelle loi les droits autochtones afin de permettre ultimement aux communautés de s'affranchir pour s'autogouverner. Une promesse qui plaît au chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, bien qu'il se demande comment elle se traduira pour les communautés sur le terrain. Le chef s'interroge en outre surtout sur la réponse que réserveront les provinces à Ottawa, à savoir si elles seront disposées à arriver à la hauteur des intentions du gouvernement fédéral. Ghislain Picard a affirmé hier qu'il avait des préoccupations sérieuses quant à la volonté du Québec d'aller dans la direction proposée par le gouvernement fédéral, notamment parce que la province traîne encore des différends avec certaines communautés en ce qui concerne la reconnaissance de leur territoire, a-t-il plaidé. Les nations autochtones ne peuvent accéder à l'autodétermination si elles ne contrôlent pas leur territoire, a-t-il argué. C'est ce qui complète les actualités à suivre pour la journée. Bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM, votre radio urbaine.
Toute simplicité. Éditeur, jardinier, militant infatigable, Serge Mongeau a étudié la médecine, l'organisation communautaire et les sciences politiques. Il est l'auteur de plus de 25 ouvrages, dont le livre phare, La simplicité volontaire plus que jamais. Reste avec nous, il passe la prochaine heure avec nous. Parole et d'action, son histoire, Serge Mongeau, est un peu comme l'histoire du Québec, qu'on présente rarement, celle des militants, souvent ignorés, qui cependant font avancer les choses. Merci, Serge Mongeau, d'être avec nous.
Bienvenue.
Oui.
Ça me fait plaisir.
Oui, et d'ailleurs, vous serez à Québec mercredi prochain, parce qu'on sait que maintenant vous vivez à Montréal. Vous serez à Québec pour célébrer avec nous le 40e anniversaire des Amis de la Terre. Alors, il y a une conférence sur le thème « Se changer ou changer le monde ». D'ailleurs, ça a déjà été le thème, n'est-ce pas, Jacques Delorme, le thème d'un colloque de la simplicité volontaire. Où il y avait eu vraiment un beau succès il y a une couple d'années. On en a même fait un film qui a été diffusé ici même à la bibliothèque Gabriel Leroy. Et d'ailleurs, hier, je suis allé pour... Serge Mongeau, je suis allé pour emprunter. Vous savez, un bon simplicitaire, ça va à la bibliothèque pour emprunter des livres au lieu de les acheter. Je suis allé pour emprunter votre dernier opus, une autobiographie de paroles et d'actions. Et il était en traitement, donc il n'était pas prêt pour la location. Alors, sachant que vous étiez avec nous ce matin, je vais aller l'acheter. Donc, j'ai fait un geste, pas tellement simplicitaire, mais tellement une belle lecture. Je le recommande pour ceux qui ont tout entendu parler de Serge Mongeau et qui veulent savoir qui est la personne derrière. D'ailleurs, Serge, je ne savais pas que tout avait commencé chez les scouts.
Oui, oui. Pendant plusieurs années, j'ai été... j'ai occupé tous les postes au scoutisme, à partir de simple scout jusqu'à seconde patrouille, chef de patrouille, assistant de la troupe et chef de la troupe aussi au collège Sainte-Croix où j'étudiais.
C'est à l'âge de 14 ans que vous avez trouvé votre place dans le monde. Et donc, vous étiez un peu, on aurait dit, un élève perturbateur, je pense. Et c'est quand on vous a donné des responsabilités chez les scouts que là, vous avez changé?
Oui. En fait, c'est ça. C'est quand mon chef m'a rencontré pour me dire, bon, on t'a choisi pour être seconde patrouille. Et pourquoi, c'est quoi la responsabilité d'un seconde patrouille? C'est comment ça fonctionne chez les scouts, c'est qu'on est en patrouille et on travaille ensemble. Et j'ai eu l'impression de faire le pas entre quelqu'un qui est dans la population, tout simplement, et quelqu'un qui occupe une responsabilité. J'ai senti que j'avais, à partir de ce moment-là, des responsabilités et que je devais me préoccuper des autres, même avant moi-même, disons. Et c'est à partir de ce moment-là, parce que mon scoutisme m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de travail, parce que j'y ai donné vraiment toutes mes années de jeunesse. Et j'ai un peu continué, finalement, toute ma vie à m'engager, finalement.
Donc, le précurseur de l'écologie, le Serge Bongeau, là, qu'on connaît, l'écosophie ou la sagesse de la nature, qui est un de vos derniers livres, d'ailleurs un ouvrage très intéressant, ça vient du scoutisme, ce militant?
Ouais,
pour la nature?
En fait, oui, le scoutisme m'a permis très tôt d'avoir des contacts avec la nature, mais pas seulement le scoutisme. Parce que je demeurais à Montréal à ce moment-là, dans ma famille, et ma famille a déménagé près du jardin botanique, et j'ai commencé à aller au jardin, à fréquenter le jardin botanique, et en particulier à embarquer dans les jardins écoliers. C'était à ce moment-là, on montrait aux on donnait une petite parcelle aux écoliers, on leur montrait comment faire pousser des choses, comment transplanter, comment semer, comment entretenir le jardin. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment fait beaucoup, toute ma vie, beaucoup jardiner. Et ça aussi, ça a été un contact avec la nature. Mais dans le scoutisme, ben, chaque année, évidemment, là, on avait un camp qui durait, je sais pas, moi, une vingtaine de jours à peu près. On avait des excursions, on allait souvent dans la nature, on essayait de vivre en harmonie avec la nature, avoir laissé les endroits comme on les avait trouvés, sans les détruire, sans laisser toutes sortes de choses, etc. Donc, contact avec la nature qui a aussi commencé à ce moment-là.
Parce qu'en lisant ça dans votre autobiographie, Serge Mongeau, j'ai réalisé que moi-même, dans le fond, j'ai fait les scouts, et probablement que je ne serais pas l'écologiste d'aujourd'hui, ou qui n'aurait pas été le leader vert que je suis ou que j'ai été, ou qui rêve à l'être encore plus, sans être passé par le mouvement scout, effectivement. Donc, je trouvais ça intéressant. Mais la médecine, ça vous est venu comment, finalement? Le médecin communautaire là, qu'on a connu par la suite?
Ben, la médecine, ça m'est venu un peu par hasard, parce que, bon, à la fin du collège, j'avais choisi finalement le service. Et pour moi, le service, ben, c'était la prêtrise. C'était un peu à l'époque où l'Église était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Et j'avais donc, au dévoilement des vocations, dit que je deviendrais prêtre. Mais après réflexion, je me suis dit, non, il y avait quelque chose que je n'aimais pas dans la prêtrise. C'était le fait que les prêtres sont quand même des privilégiés dans notre société. En tout cas, ils l'étaient dans ce temps-là. J'ai rarement vu un prêtre avoir faim, pas avoir de quoi manger. Alors que moi, je m'identifiais davantage aux causes dans lesquelles je travaillais. Et à ce moment-là, ben, je voulais être plus proche des gens que d'avoir un statut que je considérais comme un statut de privilégié, et j'ai décidé de ne pas aller dans cette voie-là, et je savais pas où aller, j'ai passé des tests, et c'est suite aux tests que l'orienteur professionnel me dit, tu as deux choses importantes dans ta vie, c'est finalement... l'engagement, puis c'est aussi le scientifique. Et à ce moment-là, ce qui concilie ces deux choses-là, ça serait peut-être la médecine. J'avais jamais pensé à être médecin. Non, jamais. Et j'ai dit, bon, ben vu que je sais pas quoi faire, je vais faire ça.
c'est pas le cheminement normal. J'ai des médecins dans la famille, moi, puis c'est pas... Mais bravo. Vous faites référence aussi à la politique dans cette autobiographie. Dans les années 70, évidemment, vous souhaitiez être candidat du Parti québécois. Ça a bien changé, on en reparlera. Mais je veux lire une anecdote. Ça va vous donner un aperçu de votre personnalité, justement, du Serge Mongeau qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des fiers à bras qui viennent vous insulter du camp adverse de l'investiture du Parti québécois. Et il y en a un qui dit « Mon hostie, tu sortirais pas d'ici sur tes deux jambes. » Alors, vous lui recommandez d'appeler l'ambulance tout de suite parce que je ne changerais pas d'idée. Ça, c'est le Serge Mongeau qu'on connaît, là.
Ben, c'est ça. C'est finalement...
hein? Vous appelez l'ambulance, mais déjà, vous étiez déjà médecin à ce moment-là, j'imagine?
oui, j'avais été médecin. En fait, j'ai été médecin 2 ans seulement.
Ah, OK,
j'ai pratiqué la médecine générale pendant 2 ans à la ville de Saint-Hubert, où je demeurais. D'ailleurs, j'ai été allé demeurer à Saint-Hubert pour pratiquer la médecine dans ce coin-là. Il y avait vraiment... beaucoup de personnes qui étaient très mal prises. Il y avait des secteurs de Saint-Hubert qui étaient extrêmement pauvres, des gens qui s'étaient construits eux-mêmes leur maison dans le champ. Puis en tout cas, c'était vraiment assez difficile comme condition. Et c'était pour ça que je voulais pratiquer dans ce coin-là. J'ai pratiqué 2 ans seulement. Mais c'était clair que finalement, pour moi en tout cas, le médecin arrivait trop tard. Arrivait quand les gens étaient malades. Et les gens étaient malades pourquoi? Ben à cause des conditions dans lesquelles...
T'es mal nourri, c'est ça?
Ben, en tout cas, ils mangeaient mal. Ils vivaient dans des maisons qui étaient froides, qui étaient mal organisées. Il y avait trop d'enfants, etc. Et donc, à ce moment-là, le médecin, lui, tout ce qu'il fait, c'est de dire, bon, t'es malade, je regarde ta maladie, je te guéris ta maladie, et retourne dans les conditions qui t'ont causé cette maladie-là, finalement. Mm-hmm. Et je trouvais ça satisfaisant de ce côté-là. Puis d'un autre côté aussi, ben j'étais le premier médecin résident de Saint-Hubert et la demande pour mes soins augmentait constamment et c'était en train de détruire ma vie familiale. J'avais déjà 2 enfants quand j'ai commencé à pratiquer. Et donc, à ce moment-là, ben ça aussi, c'était difficile. Et à un moment donné, je me suis dit, non, je vais essayer d'aller ailleurs, d'aller pour aider les gens à régler leurs problèmes avant qu'ils en deviennent malades, justement. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait un nouveau cours qui se donnait à l'Université de Montréal en organisation communautaire. Et organisation communautaire, ben, c'était pour aider les gens à s'organiser et finalement mieux vivre collectivement. Et donc, à ce moment-là, je me suis inscrit et j'ai fait le cours d'organisation communautaire. Et par la suite, ben, j'ai pas travaillé directement comme médecin, mais j'ai travaillé dans des secteurs paramédicaux puisque j'ai passé 4 ou 5 ans en planning familial. Planning familial qui permettait justement de résoudre une partie des problèmes de beaucoup de familles que je connaissais qui avaient trop d'enfants et qui savaient pas comment ne pas en avoir des enfants parce que, en particulier à cause de l'Église catholique qui interdisait les méthodes de contraception à ce moment-là, là, j'ai travaillé beaucoup pour rendre le planning familial accessible. Et après ça, ben, ça a été aussi CLSC qui était au niveau des CLSC, des centres locaux de services communautaires. Ben là, c'était une approche médico-sociale qui était originale, qui était nouvelle et qui permettait d'avoir finalement une prise en charge beaucoup plus intégrée et complète des gens.
Serge Mongeau, on aurait bien besoin de ce genre de médecin aujourd'hui qui nous coûterait quelques milliards de moins, je pense bien. Serge Mongeau, on dit que la politique est l'art du compromis, je vous cite dans votre autobiographie. Comment ai-je pu croire que je pourrais trouver ma place dans un parti politique traditionnel et accepter notamment de suivre la ligne du parti en votant à l'occasion à l'encontre de mes principes? Et vous dites que si vous aviez été le 8e élu du Parti québécois en 1970, parce qu'il y en avait eu 7 à l'époque, vous n'auriez jamais accepté le serment d'allégeance à la reine d'Angleterre que tous les députés devaient prononcer avant de siéger. Alors, vous auriez provoqué tout un tollé. Vous n'auriez même pas pu siéger à l'Assemblée nationale, même si vous aviez été élu.
probablement. Puis c'est probablement ce que les gens du Parti québécois ont compris, parce que si je n'ai pas été élu, c'est qu'il y a eu des conflits à l'intérieur du parti dans mon comté de Saint-Hubert et le parti n'a pas pris position pour trancher et finalement me donner accès à la candidature. Je me suis carrément fait voler l'élection pour être le candidat et les gens du Parti québécois le savaient et les gens n'ont pas réagi parce que probablement qu'il avait un peu peur là, de quelqu'un comme moi qui arriverait et qui serait pas capable de suivre une ligne du parti qui, à des moments donnés, s'en va tout croche.
Je connais la chanson, ça existe encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, parlant d'investiture, maintenant, je pense que vous êtes plus d'allégeance de Québec solidaire. Il y a quand même quelque chose d'intéressant qui se passe à Québec. Pour la première fois, il y aura des investitures dans Taschereau, ici. Ma bonne amie Catherine Dorion et Marie-Ève Duchesne qui se battent à l'investiture et ça semble bien se dérouler du côté de Limoilou aussi, où il y a Sol Zanetti, l'ancien chef d'Option nationale, et Sébastien Bouchard, d'ailleurs, qui vous ressemble quand vous étiez jeune. On voit des photos. J'avais l'impression que Sébastien Bouchard porte la même coupe de cheveux que vous dans le temps. Alors, est-ce que vous pensez que les investitures vont mieux se passer à Québec solidaire?
Oui, je pense que effectivement, Québec solidaire est vraiment actuellement là, un parti très démocratique et qui écoute les gens. Et c'est comme nous autres avec Projet Montréal. Ici, dans mon comté, il y a Projet Montréal, dans mon arrondissement, ben justement, il y a eu des mises en candidature, une lutte, il y a des gens qui ont essayé d'empêcher une de mes amies qui se présentait de finalement gagner. Et donc, ils ont essayé de l'écarter et à cause, justement, de l'appui de la base, à cause des gens qui ont dit « Non, écoute, il faut que ça se passe comme il faut et c'est pas aux autorités du parti de choisir les candidats. » Et finalement, ben elle s'est présentée et elle a gagné aussi, alors qu'eux autres, il y avait un autre candidat en vue et qu'ils pensaient que elle ne serait pas capable de gagner son élection. Ben, elle l'a fait. Et c'est ça, je pense, ces deux partis qui actuellement sont encore démocratiques et il faut se battre pour continuer à ce qu'ils le demeurent.
Juste pour terminer sur le volet politique, qu'est-ce qu'il y a dans le programme de Québec solidaire qui fait que c'est bon pour la simplicité volontaire et promouvoir ce mode de vie?
Ben, écoute, la simplicité volontaire, c'est, il faut pas être aveugle, là, puis c'est pas ça. C'est pas juste ça. La simplicité volontaire, c'est un aspect, finalement, de la façon de vivre qui nous permettrait d'avoir une société qui est meilleure. Mais Québec solidaire met de l'avant beaucoup de propositions qui permettraient justement plus de justice sociale, plus d'équité dans notre société et aussi un meilleur fonctionnement global, une meilleure approche au plan écologique. Et à ce moment-là, ben c'est pour ça que, en tout cas, moi, je continue à trouver que il faut l'aider à avancer.
Juste pour terminer sur votre autobiographie, est-ce qu'il y a une anecdote que vous aimeriez partager avec nous, qu'on retrouve dans ce livre, histoire de nous donner le goût encore plus d'aller l'acheter à la librairie pantoute ou de l'emprunter à la bibliothèque quand il sera disponible?
Non, vraiment, là, tu me prends au dépourvu. Qu'est-ce qui, dans ma vie, s'est passé et qui a été... qui est un élément intéressant, je ne sais pas, finalement. J'ai quand même... quand je regarde en arrière, écoute, j'ai quand même aujourd'hui 80 ans. Bon. Et je me dis, mais ça... c'est tellement loin ce que j'ai vécu. J'ai quand même vécu une année au Chili. J'ai vécu des batailles beaucoup là pour le planning familial. On a fait avancer les choses de ce côté-là, puis ça n'a pas été facile. Tiens, une anecdote. À un moment donné, pendant justement quand je travaillais beaucoup pour le planning familial, je sais qu'il y a des... il y a au moins un curé qui, un dimanche, à l'église, avait demandé de prier pour mon âme parce que je disais aux gens de transgresser un peu finalement les enseignements de l'église qui disaient bon ben la planification familiale, on ne devrait pas prendre aucune méthode, il faut laisser la nature, ça n'a pas de sens. Hein. Oui, on a prié pour moi déjà là, dans certaines églises.
La crise sociétale, Sergent Jo, dans laquelle on est finalement, est prévisible?
Écoute, c'est très clair qu'on s'en va vers un effondrement de notre civilisation. Je lis énormément parce que je continue à collaborer beaucoup aux éditions Éco-Société, où un de mes rôles, je fais partie du comité de lecture puis du comité éditorial, et donc on choisit les livres, on cherche les livres qui seraient importants de publier et tout ça, et donc je lis énormément, et tous les gens qui réfléchissent vraiment sérieusement à notre avenir nous disent on s'en va vers un effondrement de notre civilisation, c'est très clair. On ne peut pas continuer à consommer comme on consomme actuellement et de la façon d'organiser nos sociétés, de la façon dont elles sont organisées, avoir tellement d'inégalités dans notre société. Tout ça, avoir un système financier qui est artificiel, qui est absolument dangereux, qui peut s'effondrer à n'importe quel moment. Alors, ça va arriver comment, notre effondrement? Par la fin du pétrole, par finalement l'empoisonnement de toute notre société à cause de tout ce qu'on jette dans l'air, de tout ce qu'on retrouve dans nos aliments qui ne devraient pas s'y retrouver. Est-ce que ça va être des gens qui vont se révolter, qui vont dire ça n'a pas de sens, qu'il y a des gens qui vivent de la façon dont ils vivent alors que nous, on n'a pas de quoi manger? Je ne sais pas comment ça va arriver, mais c'est clair que ça ne peut pas continuer. Écoute, on a une planète qui est ronde, qui est finie, et on met sur cette planète-là, finalement, une croissance économique qui consomme des biens et qui rejette des déchets et qui, à ce moment-là, le fait toujours en augmentant constamment cette consommation et ce rejet des déchets. Sur une planète qui est finie, qui est ronde, qui est isolée du reste de l'univers, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Et c'est très clair que ça s'en vient, l'effondrement, mais du côté de nos gouvernements, du côté de beaucoup d'organisations, on se ferme les yeux et on dit oh, on va trouver des solutions, on va inventer des technologies, on va avoir quelque chose d'autre qui va nous fournir l'énergie, toutes sortes de solutions qui n'ont absolument aucun sens et qui n'auront pas le temps de répondre. C'est très clair que ce qu'il faut actuellement, c'est un changement d'orientation majeur et on va pas dans ce sens-là du tout. On veut continuer à consommer comme on consomme. On veut continuer à être confortable sans prendre conscience du fait que notre confort, il se construit sur l'exploitation de millions de personnes dans le tiers monde. Ça n'a vraiment pas d'allure et ça peut pas continuer comme ça.
Oui, c'est pas d'hier. D'ailleurs, il y a 40 ans, vous écriviez avec d'autres le manifeste de création des Amis de la Terre de Québec qui célèbre le 40e anniversaire, justement, en vous invitant. C'est vraiment, je pense, le moment culminant. Mercredi prochain, le 21 février, à 19h15, vous serez au Centre Culture et Environnement Frédéric Bach, 870 Avenue Salaberry, donc à la salle Michel Jourdan, que vous avez probablement connue à cette époque.
Ben, Michel, je l'ai rencontré une couple de fois, oui, c'était un bon vivant, puis tout ça. Je suis arrivé, moi, aux Amis de la Terre, j'ai demeuré à l'île d'Orléans pendant plusieurs années, une vingtaine d'années, et pendant toutes ces années-là, ben, j'ai été membre des Amis de la Terre et très impliqué dans les Amis de la Terre. Mais je suis arrivé aux Amis de la Terre à la fin de l'ère Michel Jourdan, et Michel est décédé malheureusement peu de temps après. Je l'ai pas connu beaucoup, mais oui, je me suis impliqué beaucoup dans les Amis de la Terre, et j'ai toujours trouvé que c'était un mouvement extrêmement intéressant et qui faisait du bon travail.
D'ailleurs, c'est dans le cadre d'un colloque des Amis de la Terre qu'un groupe s'est formé pour créer le groupe de simplicité volontaire de Québec. Donc, c'est un lien intéressant. Vous êtes à l'origine donc de cette graine qui a été semée il y a des décennies. Et donc, les Amis de la Terre vous invitent mercredi prochain sur le thème « Se changer ou changer le monde ». On dit ici « Prendre conscience de la crise écologique conduit naturellement à vouloir agir pour changer la société ». Mais il convient de se demander « Quelle société veut-on construire au juste ?» Plus encore, il faudrait savoir quel humain souhaite-t-on pour cette société et par quoi commencer alors se changer ou changer le monde, Serge Mongeau.
Ah ben écoute, moi c'est un processus qui va ensemble. C'est très clair que...
Allô? Oui? Ah, la ligne a coupé. Donc on va à la musique et on aura la suite de l'entrevue avec Serge Mongeau.
J'ai souvenir encore d'une rue d'un quartier qui me vit souffrir, grandir par les années. C'est dans un vieux taudis que 10 ans de ma vie j'apprenais à mentir. Pourquoi vieillir? J'ai souvenir encore d'une vieille maison que l'on se partageait, chacun à sa façon. Un logement bien chauffé, on a si bien gelé, les rats dans l'escalier prenaient leur déjeuner.
J'ai souvenir encore.
J'ai souvenir encore
de quatre jeunes garçons qui avaient grand plaisir à jouer les fanfarons. Les garçons de ton âge avaient pour voisinage Robineau du Vigée, putain de la Saint-Laurent.
J'ai peu de souvenirs
d'une vieille maison
que l'on dut démolir,
rongée par les saisons. Adieu rue sanguinaire, adieu mon coin vitré.
Mais ce soir je te laisse un peu de mes pensées.
Et ce soir je te laisse.
Mais ce soir je te laisse
un peu de mes
pensée.
Mais j'en ai des frissons, Serge Mongeau. Je pensais pas avoir fait un aussi bon choix musical à la dernière minute comme ça. Une chanson de Claude Dubois, j'ai des souvenirs encore. Et d'ailleurs, il était en spectacle hier au Grand Théâtre. J'ai un ami qui est allé le voir et malgré ses 70 ans et une maladie très grave, il est encore un de nos grandes voix, plein de vie et entouré de jeunesse, comme vous le faites bien aussi encore aujourd'hui. Est-ce que vous êtes plus l'objecteur de croissance ou celui qui pense que la simplicité volontaire est encore pertinente?
C'est évident qu'on ne peut continuer à consommer comme on consomme dans nos pays industrialisés. Et moi, je trouve que la simplicité volontaire, c'est plus pertinent que jamais parce que c'est très clair que, ça nous prendrait actuellement, si tout le monde là, consommait comme nous autres, les Nord-Américains, ça nous prendrait 4 planètes ou 5 planètes. On en a une seule planète. Comment peut-on continuer comme ça? On continue d'abord dans l'injustice. Ce qui est disponible sur la planète, c'est nous qui l'accaparons, c'est nous qui le consommons. Et alors que d'autres personnes n'arrivent même pas à manger un repas par jour, ça n'a vraiment pas d'allure. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, il faudrait se poser des questions. Si notre consommation nous rend si heureux que ça. Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. La simplicité volontaire, c'est pas du sacrifice. C'est pas de dire on va se priver. C'est pas ça. C'est tout simplement une certaine sobriété qu'il s'agit de dire, je vais moins consommer, mais je vais, à ce moment-là, avoir une vie mieux équilibrée. Pour consommer comme on consomme, ça coûte cher. Il faut qu'on travaille. Et finalement, on se rend bien compte que dans nos sociétés, c'est le travail qui a pris toute la place pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir consommer, pour pouvoir, à ce moment-là, s'acheter des choses. Alors que si on consommait moins, on aurait moins besoin d'argent. Si on avait moins besoin d'argent, on aurait moins besoin de travailler et on aurait plus de temps pour vivre, pour faire les choses qui sont importantes, pour s'occuper de notre communauté, pour s'occuper de nos enfants, pour nous autres mêmes se développer, lire, réfléchir, faire du sport, se donner une bonne santé, etc. Donc, on est embarqué dans une société qui, finalement, nous rend esclaves de plus en plus de toutes sortes de choses et fait de nous autres, d'une certaine façon, des gens dépourvus. Quand va arriver l'effondrement de notre civilisation, comment les gens vont faire pour répondre à leurs besoins si... Pensons-y, s'il n'y a plus d'électricité, s'il n'y a plus de services d'aqueduc, si... Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se débrouille? Les gens ne le savent plus, le savent de moins en moins. Comment faire nos vêtements? Comment faire pousser nos choses nous autres-mêmes, etc., etc. On est de plus en plus dépendant de tout un système et à ce moment-là, ça va être difficile, ça va être tragique. C'est clair que on s'en va vers des gros malheurs je pense que ce que j'essaie de faire puis avec d'autres on essaie de faire c'est développer notre résilience, notre capacité de passer au travers des épreuves comme celle-là et d'être capable de survivre et en même temps aussi cette résilience-là, c'est de rendre finalement la présence humaine sur la Terre compatible avec les possibilités de la Terre, alors que là, on va au-delà des possibilités de la Terre. Comme je t'ai dit, on vit comme s'il y avait 4 planètes, puis il y en a une seule.
Bonjour Serge, c'est Jacques Delhomme.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, toi aussi.
Ça fait longtemps qu'on se connaît. Des débuts de la simplicité volontaire. Ça, je voulais parler un petit peu de l'évolution du mouvement. Puis peut-être peut-être une c'est sûr que nous autres, avec la simplicité volontaire, on met plus l'emphase sur se changer que changer le monde. On pense que c'est une pratique, en fin de compte, la simplicité volontaire. Puis, comme être végétarien, par exemple, c'est des valeurs qu'on met en application dans nos vies. C'est une pratique individuelle. Puis, à la longue, elle a un impact là, sur le monde, sur la société. Puis, je vois quand même, je sais pas ce que tu en penses, mais il me semble que je vois que ces valeurs-là, ces idées-là, ils font leur chemin. On dirait qu'il y a une évolution comme normale des sociétés. Est-ce que la question qu'on peut se poser, est-ce que la société va évoluer assez vite pour qu'on évite l'effondrement? Ça, c'est une autre question, mais on le voit que ça fait son bout de chemin. Juste des détails, là, dernièrement... avec les infirmières, je sais pas si les infirmières qui trouvent qu'ils travaillent trop. Puis le gouvernement disait ben pourtant on vous offre des postes à temps plein puis vous les prenez pas. Puis là-dedans ce qui ressortait que les infirmières disaient oh, mais justement on veut plus travailler à temps plein, on veut avoir une vie. Puis ça c'est des idées simples et volontaires alors qu'auparavant la tendance aurait été de dire, moi, je prends le poste à temps plein parce que je veux faire...
Je vais faire l'extra à double tarif.
C'est mieux un poste à temps plein. Puis en plus, j'ai la possibilité de faire du temps supplémentaire. Ça, cette façon de voir-là est en train de changer. Là. Surtout chez les jeunes, on le voit là, clairement que les jeunes sont beaucoup moins omnubilés par le fait de faire beaucoup d'argent. Ils veulent avoir une vie plus équilibrée. Puis, en tout cas, on le voit, là, que les idées de la simplicité volontaire, là, ça, c'est en train de devenir là, quelque chose qui est dans la vie normale des gens. Je sais pas ce que tu en penses.
Oui, oui, effectivement. Écoute, il y a quand même de l'espoir. Il y a partout des initiatives qui se prennent et qui vont vers le type de société dont on aurait besoin, où on partage davantage, etc., et où on consomme moins, on est moins prisonnier de la consommation. Ça, c'est très clair. Mais en même temps, c'est très clair aussi que le progrès n'est pas assez rapide et que je suis un peu catastrophiste. Mais en tout cas, il y a des gens qui me qualifient de catastrophiste en disant « Ben oui, tu nous dis qu'on s'en va vers l'effondrement, qu'il va avoir des gros problèmes dans nos sociétés et tout ça. » Je me considère pas comme catastrophiste au sens où je me dis plus réaliste. C'est très clair que notre société est fragile puis qu'il faut qu'on entreprenne des changements. La simplicité volontaire nous permet déjà de commencer et surtout d'avoir du temps pour s'engager parce que le changement dont on a besoin, il vient pas tout seul. T'sais, nos gouvernements, ils travaillent dans le sens pour que ça ne change pas. Regarde, là, la priorité de nos gouvernements, c'est toujours créer des emplois, que l'économie continue à grandir. Si on peut grandir de 2%, de 3%, c'est ce qu'il faut. Donc, continuer la croissance économique, mais continuer la croissance économique, ça veut dire quoi? Tu sais, à 3 ou 4%, ça veut dire que au bout de 15 ans, t'as doublé finalement la consommation de ce qu'on avait aujourd'hui, alors que déjà on consomme plus que les capacités de la planète de se renouveler, de nous donner des ressources pour ce qu'on consomme. Mais, ça n'a vraiment aucun sens.
Mais là, les économies ont beaucoup ralenti. On dit que les économies, en tout cas notre pays, on parle d'une économie mature, une économie mature. Quand l'économie devient mature, là, la croissance est à 1 %, comme au Japon. Je ne sais même pas s'ils ont de la croissance, je pense que c'est à zéro, parce que là aussi, la démographie, on voit que de ce côté-là aussi, autrement dit, ce qu'on appelle la décroissance, ou l'absence de croissance, elle s'établit tout seul dans les économies qui deviennent matures.
Oui, mais sauf qu'elle n'est pas acceptée, puis on ne s'adapte pas à ça. Tu comprends? On continue à avoir une société où il faut consommer, où on t'encourage à consommer, où on fait énormément de publicité, où on essaie de maintenir finalement la consommation et on s'inquiète quand la consommation diminue, alors que c'est pas ça qu'il faudrait justement. Il faudrait s'en aller dans une autre direction.
Et on va pas. Oui, c'est vrai parce que c'est ce qu'on entend toujours, qu'on voudrait avoir plus de croissance, mais malgré tout, ça n'arrive pas parce que...
Mais écoute, c'est ça, la crise, elle s'en vient, et il commence à y avoir... la société est de plus en plus fragile, ça ne prendra pas grand-chose pour... il y a quelques années, en 2008, on a eu quand même une crise du système, puis ça a failli s'effondrer. Ouais. Ben, la prochaine fois, est-ce que ça va encore réussir à se relever, là? Mmh. La dernière fois, nos gouvernements ont compensé les pertes des banques et ont empêché finalement que le système s'écroule, mais ils sont pas capables de faire ça 2-3 fois de suite.
C'est certain qu'on est dépendant de tous nos gadgets puis notre confort là, un peu beaucoup là. Puis ça, disons qu'il y a quelque chose à revoir là-dedans là.
Ouais, puis en tout cas moi ma réflexion c'est aussi de dire on a de quoi manger, on a de quoi s'amuser. Regarde comment on investit dans les Jeux olympiques, ça n'a pas d'allure, les milliards qu'on met là-dedans et tout ça. Mais est-ce que finalement, au fond, est-ce qu'on est si heureux que ça? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Mmh. Est-ce qu'on a une vie avec un sens? Est-ce qu'il y a un sens à nos vies? Est-ce que c'est ça la vie de consommer, de s'amuser, de boire, de manger trop, d'être de plus en plus dépendant du système médical, d'avoir des maladies, de mourir plus tôt, de pas avoir le temps de s'occuper de ses enfants, de les confier de plus en plus à des garderies ou à toutes sortes d'institutions. Est-ce que c'est ça la vie ou est-ce qu'on serait pas mieux d'avoir une vie un peu plus simple, là, puis où on prend le temps de vivre, où on travaille moins, où on produit une partie de nos besoins, par exemple, où on se donne le temps de jardiner, où on est capable de faire nos propres vêtements, où on fait notre cuisine. Tu sais, regarde le nombre de repas que les gens prennent à l'extérieur, qu'est-ce qui se vend dans nos magasins le plus, des aliments tout préparés, tout mal préparés, parce que ceux qui les préparent, ils pensent à faire du profit et non à notre santé. C'est tout ça, finalement, qu'il faut se poser comme question. Est-ce que... Moi, je pense que, l'effondrement de notre civilisation, ça va être tragique, mais en même temps, ça va nous obliger à revenir à une vie qui soit beaucoup plus épanouissante et qui soit plus près de notre vraie nature au lieu d'actuellement penser que on va vivre éternellement, tous nos besoins vont être comblés par toutes sortes d'institutions, etc., etc.
C'est plus des vies plus équilibrées qu'on devrait avoir. D'ailleurs, dernièrement, j'ai fait un voyage, j'étais en Indonésie. J'étais vraiment surpris, puis on peut dire l'Indonésie se considérait comme un pays du tiers-monde. Puis les gens vivent vraiment simplement. Là, j'étais dans des maisons, là, t'as aucun appareil électroménager, t'as pas de poêle, même pas de frigidaire, pas rien. Puis ce qui m'a surpris, c'est que j'ai été impressionné. C'est sûr que j'ai pas tout vu l'Indonésie, mais j'en ai vu pas mal. J'ai pas vu de misère. Curieusement, tu sais, j'ai pas vu de mendiants ou de gens vraiment dans la misère. J'ai vu des gens vivre pauvrement, simplement, mais tout le monde c'est un peu comme, j'ai l'impression, un peu comme à Cuba, où ce que les gens sont quand même, le gouvernement s'occupe bien des gens. Il y avait des hôpitaux, il y avait des écoles, il y avait des infrastructures qui étaient quand même fonctionnelles. Puis les gens vivent pas mal plus lent que nous autres. C'est un rythme beaucoup plus lent. Puis curieusement aussi, il y avait la technologie qui était là aussi. Les gens, je sais pas ce qu'ils... Je pense qu'ils ont leur propre compagnie de téléphone intelligent. Les gens ont leur téléphone intelligent. Tout le monde, même les gens les plus pauvres, ont leur téléphone intelligent, puis ils ont accès à Internet. Il y a des réseaux Internet partout. Alors, c'est fascinant de voir, disons, de l'autre côté de la lorgnette, un pays qui est beaucoup plus simplicitaire, je dirais, qui, eux, peut-être, auraient besoin peut-être d'un peu plus de développement matériel que nous. Mais en tout cas, il y aurait des échanges intéressants à avoir entre nous autres, comment on vit beaucoup, beaucoup axé sur le matériel versus d'autres pays où il y a un équilibre de l'autre sens. Là, l'idéal serait entre les deux. Là.
Malheureusement, ce que l'évolution actuelle, c'est que dans ces pays-là, on s'oriente de plus en plus, on prend comme modèle nous autres.
Oui, okay? C'est ça.
Ce qu'on essaie de faire, ce qui est en train de se faire, c'est partout c'est dans le monde, on est en train de répandre finalement les aspirations à une consommation comme la nôtre. Ça, c'est à cause
en Chine, particulier. Surtout, c'est catastrophique.
Ben c'est ça. Écoute, regarde là, comment ils se vendent les autos en Chine. Quand ils vont avoir autant d'autos que nous autres, parce que c'est vers ça que ça s'en va.
Deux chaque, oui.
Ben écoute, je sais pas où est-ce qu'ils vont mettre les routes ou où est-ce qu'ils vont mettre les autos.
Quel air ils vont respirer aussi, parce qu'on voit de plus en plus des Chinois avec des masques.
C'est ça. ça n'a vraiment pas de sens. Et donc, oui, quand on regarde, il y a bien des gens encore qui, dans le monde, vivent beaucoup plus simplement, mais qui, malheureusement, à cause de nos moyens de propagande, de publicité, à cause de la télévision qui se répand partout dans le monde, aspirent à ce qu'on leur montre, ce qu'on montre, ben, c'est comme si c'était un paradis, finalement, par rapport à ce qu'eux autres y vivent.
Une fausse richesse, là, qu'eux autres ne réalisent pas qu'il y a une belle richesse, mais ben, ils réalisent peut-être, mais en tout cas, faudrait qu'on leur dise de ce côté-là qu'ils ont une belle richesse dans leur façon d'être, là, parce que ces gens-là sont tellement accueillants, puis sympathiques, puis heureux, c'est surprenant même.
C'est pas à nous autres d'aller leur dire de toute façon, vous ne devriez pas consommer.
Ouais.
Il faudrait qu'on commence, si on veut leur parler.
Prêcher par l'exemple.
C'est ça, qu'on commence. Et c'est pour ça que je trouve que la simplicité volontaire, c'est plus actuel que jamais. C'est que ça nous permet en même temps de mieux vivre, c'est ça, et de trouver du temps pour être capable de s'engager. Regarde, là, moi, je suis engagé dans différents mouvements depuis bien longtemps, et c'est de plus en plus difficile de faire des réunions, de se réunir. Les gens sont épuisés après avoir travaillé leur longue journée, après avoir couru, après... écoute, pour se rendre chez eux à Montréal, il y a bien des gens que ça leur prend une heure le matin, une heure le soir de voyagement, aller mener des enfants à la garderie, aller les chercher après. Ils sont à la course tout le temps, tout le temps. Et les gens n'ont plus le temps de s'impliquer collectivement. Et c'est ce qu'il faut si on veut reconstruire notre société. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'engage, il faut que on ait des bénévoles qui travaillent à changer les choses, etc.
On aurait intérêt à tout le monde simplifier nos vies, effectivement.
Oui.
C'est ça.
D'ailleurs, beaucoup de gens sont venus à la simplicité volontaire ou en ont été sensibilisés en lisant votre fameux classique « La simplicité volontaire plus que jamais ». Il s'en est vendu combien de ces livres-là, coudonc?
Je pense qu'on doit être rendu dans les 30 000, quelque chose comme ça. C'est quand même, c'est quand même un livre qui a connu un certain succès à une époque. Malheureusement, aujourd'hui, je pense que on lit beaucoup selon les modes. Hein? Moi, je regarde, j'ai une bibliothèque et j'essaie de faire un peu de ménage, de dire, là, je regarde mes livres Et je relis mes vieux livres et tout a déjà été dit. Mais on...
D'ailleurs, vous avez eu une réédition, c'est ce qui fait qu'il y en a eu 30 000. C'est une véritable réflexion sur notre rapport à la consommation, comme on vient de l'entendre pendant la dernière heure quasiment. Mais je vous ai entendu parler aussi qu'il fallait être heureux. Donc, bien sûr, on parle souvent ici de Pierre Rabhi et de ses écrits sur la sobriété heureuse. Qu'est-ce que vous pensez de cette expression « sobriété heureuse » par rapport à la simplicité volontaire que vous nous avez fait connaître, un peu peut-être traduit de l'anglais d'ailleurs? Expliquez-nous comment ça vous est venu.
Ben, écoute, c'est... En fait, quand j'écrivais, quand j'ai écrit ce livre-là, c'était un livre sur la santé que je voulais écrire, OK? Et en disant, ben écoute, si on veut être en santé... Finalement, il faut retourner à une vie beaucoup plus simple. Au moment où j'écrivais sur la santé, il y a un livre qui est sorti aux États-Unis qui s'appelait Voluntary Simplicity, qui s'inspirait d'un article qui avait été écrit en 1936 par un Américain et qui, à ce moment-là, donc, je lis ce livre-là, puis je dis, mais c'est exactement, ça va exactement dans le sens que je pense. Et à ce moment-là, ben, j'ai parlé de simplicité volontaire et le livre a quand même connu avec le temps un certain succès et de plus en plus de gens m'en parlaient, disaient oui, ça a bien du sens et c'est un peu pour ça qu'on a lancé le mouvement de la simplicité, c'est réunir des gens. Il y avait des gens un peu partout au Québec parce que à un moment donné, le livre était très populaire et on me sollicitait beaucoup dans les médias. J'ai fait beaucoup de conférences, j'en ai parlé dans les médias et là, je rencontrais des gens qui me disaient « Ah, ça fait longtemps que je cherchais quelque chose puis c'est exactement dans le sens que qui m'intéresse. Peut-être qu'on devrait... » Ça n'est pas facile quand même dans notre société qui nous encourage exactement au contraire. Ça n'est pas facile de mettre ça en marche, la simplicité volontaire dans nos vies. On aimerait ça en rencontrer d'autres qui pensent la même chose.
Justement, en Belgique, quand on a présenté le film « Le bien-vivre simplicitaire d'un café à l'autre », en Belgique, eux, ils utilisent la simplicité volontaire et on vous citait dans plusieurs revues des Amis de la Terre là-bas en Belgique. Alors qu'en France, on fait toujours référence à Pierre Rabhi, à la sobriété heureuse. Qu'est-ce que vous pensez de cette expression de Pierre Rabhi?
Ah non, écoute, moi je trouve que c'est exactement... la même chose, on décrit la même chose. D'ailleurs, je l'ai rencontré, Pierre Rabhi, il a fait une tournée au Québec il y a quelques années, puis c'est moi qui le présentais dans ses conférences et tout ça. C'est exactement, simplicité volontaire, le nom est pas important, c'est le concept, c'est l'idée qui est importante. Hein?
C'est la santé communautaire, finalement. C'est, si vous vouliez écrire un livre sur la santé, vous, comme ex-médecin communautaire, communautariste, c'est donc une solution à la santé, la simplicité volontaire.
C'est une solution à bien des choses, c'est ça l'affaire.
Il va falloir vous réinviter comme ça.
Ben écoute, c'est une solution à l'éducation, hein? Avoir le temps de s'occuper de ses enfants puis à leur transmettre des valeurs qui ont du sens. C'est une solution à finalement notre organisation sociale, d'avoir des gens qui ont justement du temps. C'est une solution aussi, je trouve, en tout cas, à une moins grande exploitation. Si on consommait moins, si on était moins préoccupé de consommer toujours à meilleur prix, avoir plus pour moins d'argent, ben à ce moment-là, on exploiterait moins les gens. Là, actuellement,
c'est
très clair. Écoute, ça n'a pas de sens, le prix qu'on paie à certaines choses.
Serge Mongeau, moi j'aurais continué une autre heure, mais on doit laisser la place d'un autre angle. Merci beaucoup. Donc, on vous voit mercredi soir prochain au Centre Frédéric Bach. Merci d'être avec nous à Québec la semaine prochaine. Et ceux qui sont intéressés à vous rencontrer, vous allez pouvoir signer les livres, j'imagine?
Ah, ben je sais pas si...
On s'organisera. On a de vos livres. Merci beaucoup. Au revoir.
Salut.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Gîte Service Conseil en emploi vous invite à monter à bord de l'autobus de l'emploi pour aller visiter 5 entreprises situées dans les parcs industriels de la Ville de Québec. C'est jeudi le 22 février prochain de 8h à 13h.
Pour en savoir davantage et pour vous inscrire gratuitement, composez le 418-686-1888. L'autobus de l'emploi, une façon originale et efficace de rencontrer des employeurs potentiels.
Ici Alain Lalancette. Je vous invite au Jazz Bazar tous les dimanches de 18h à 20h sur les ondes de CKIA FM. Je vous offrirai alors un cocktail musical en jazz contemporain, fusion et métissage. Je vous accueille donc dimanche dès 18h au 88,3.
Le vendredi, c'est Science Énergie. Vous aimez explorer, découvrir, apprendre? La santé vous intéresse? Vous êtes curieux d'entendre une équipe de chroniqueurs passionnés? Écoutez Science Énergie et entrez dans le monde fascinant de l'environnement, de l'énergie, de l'univers et des enjeux climatiques. Laissez-vous guider au fil des capsules sur l'alimentation, le bien-être, la santé mentale et médicale. Laissez la science venir à vous tous les vendredis, à midi, à l'antenne de CKIA FM 88,3.
Le vendredi, 20h, c'est l'émission Maximum Rock'n'Roll. Une émission qui explore les nombreux méandres de la musique rock. Soyez au courant des événements, des spectacles, des sorties de disques et des nouvelles du monde de la musique underground et de la culture populaire. Le vendredi à 20h, Maximum Rock'n'Roll avec votre animateur Félix sur les ondes de CKIA 88,3 Radio Urbaine.
Vous aimeriez découvrir ou redécouvrir la musique britannique, américaine et parfois francophone de la fin des années 60 aux années 80? Mimi et André vous convient au vieux show à CKIA 88,3 à tous les vendredis à 18h.
C'est un rendez-vous!
Du 1er au 16 février, vivez la royauté la plus accessible du monde avec la Revengeance des Duchesses, une tribune féministe et une anti-compétition.
8 femmes, 8 voix, 8 couleurs, 8 quartiers de Québec.
Suivez Julie, Caroline, Joannie, Sarah, Marjolaine, Mariana, Émilie et Anouchka au revengeanceduchesse.com.
Lancement le 1er février au Bal du Lézard, couronnement le 16 février à la Korigane.
La Revengeance des Duchesses est possible grâce à ses partenaires, la Korigane, CKIA FM, Bassovski, Montlimoilou.com, Montsaint-Roch.com, Roy Lévesque et Associés et Antitude.
Bonjour, chers auditoires, ici Caroline Roy-Blais. Voici les nouvelles qui font la manchette aujourd'hui en ce vendredi 16 février 2018. Festival contre le racisme. C'est demain à 19h au Sacrilège que sera lancée la programmation de la deuxième édition du Festival contre le racisme de Québec. Le porte-parole du festival, Nicolas Villamarin, était en entrevue à Québec Réveil ce matin.
On va avoir 3 jours, encore une fois, 3 soirs qui vont être de la musique. Cependant, pendant la journée du 24 mars, le samedi, à partir des midi à peu près, il va y avoir une série de conférences, ateliers. Donc, on a misé beaucoup plus sur ce format-là pour pas juste faire un festival de musique, mais aussi un espace de discussion collective et de réflexion collective. Par rapport à divers types d'expériences. On a voulu beaucoup plus miser cette année sur ce qu'on parle de racisme systémique. Oui. Bon, j'aime pas vraiment beaucoup le terme de racisme systémique parce que je trouve que c'est simplement un pléonasme. Donc, le racisme lui-même, c'est un système.
Santé. Un texte d'Isabelle Porter dans Le Devoir. L'absence de médecins les soirs et fins de semaine à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec est inacceptable et risquée, dénoncent des dizaines de psychiatres et collègues d'autres disciplines dans une lettre ouverte au Devoir. Alors que le fléau des maladies mentales est de plus en plus pris au sérieux dans la population avec les sorties publiques d'Alexandre Taillefer ou de Samuel Archibald, des décisions administratives ne vont pas dans la bonne direction, écrivent les signataires de la lettre. Nos patients se retrouvent sans couverture médicale soir, nuit et fin de semaine en cas de complications relatives à leur condition psychiatrique, dont l'abus de drogue, une tentative de suicide ou une réaction sévère à la médication.
Le Devoir révélait mardi qu'à compter de la fin mars, il n'y aurait plus de médecin le soir après 16 heures, la nuit et la fin de semaine à l'Institut. Un médecin sera de garde, mais sur appel. Interpellé à ce propos, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale avait expliqué que cela découlait du départ à la retraite de 5 médecins généralistes, mais qu'on aurait probablement fait des changements de toute façon parce que le service n'était pas absolument nécessaire. Le directeur des services professionnels, le Dr Pierre Laliberté, ajoutait qu'en cas d'urgence, l'hôpital de l'Enfant-Jésus offrait des soins spécialisés à 5 minutes de là en ambulance. Un commentaire qui a été particulièrement mal reçu. Éducation, un texte de Daphné Dion-Vien dans le Journal de Québec. À l'Université Laval, le nombre de cours à distance augmente à un point tel qu'il est impossible de suivre certains cours en classe sur le campus. Ophélie Lavoie s'est inscrite au baccalauréat en communication il y a un an. Originaire de Sainte-Marie-de-Beauce, elle a alors décidé de louer un appartement à Québec. Elle constate par la suite que plusieurs cours obligatoires de première année sont offerts uniquement à distance et se retrouve bien malgré elle avec 2 cours en ligne à sa première session et 4 cours en ligne sur 5 à la session suivante. Avoir su, je n'aurais pas signé de bail, lance la jeune fille. À l'Association des étudiants en communication publique, on confirme que le grand nombre de cours en ligne obligatoires en première année fait des mécontents. Dans les rangs des étudiants, les avis sont toutefois partagés. Certains détestent les cours en ligne, mais d'autres adorent la formule et en